Paul avait choisi la grotte des oiseaux comme poste de commandement. Et cela ne pouvait être mis en question, elle le savait. C'était un choix idéal. Au nord s'ouvrait la passe du vent, qui accédait à un village fortifié, au fond d'un creux entouré de falaises. Ce village était important puisqu'il abritait des artisans et des techniciens. De lui dépendait tout un secteur de défense arconnène. Derrière les tentures, il y eut un toussotement. Jessica se redressa et respira profondément avant de dire « Entrez !» Les tentures s'écartèrent et Gurney Halleck bondit dans la pièce. Elle n'eut que le temps d'entrevoir son visage familier à la grimace étrange, puis il fut derrière elle et la maîtrisa, passant un bras sous son menton, la relevant brutalement.
« Gurney, espèce de fou, que faites-vous ?»
Elle sentit alors le contact de la pointe du couteau dans son dos. Elle comprit alors, et ce fut comme si une eau glacée s'écoulait de la lame pour se répandre dans son corps. Gurney allait la tuer. Pourquoi? Elle ne pouvait entrevoir la moindre raison. Gurney ne pouvait être un traître. Pourtant, elle ne pouvait avoir aucun doute sur ses intentions. Son esprit cherchait, ses pensées s'accéléraient. Gurney n'était pas un adversaire dont on pouvait se débarrasser aisément. C'était un tueur qui se méfiait de la voix, qui connaissait tous les stratagèmes, qui était constamment à l'affût de la moindre réaction de violence ou de mort. C'était un superbe instrument. Elle avait elle-même aidé à le former par ses conseils, ses suggestions subtiles.
« Vous pensiez avoir échappé, hein, sorcière » gronda-t-il.
Avant que la question fût acceptée par son esprit, avant qu'elle ait tenté de répondre, les tentures furent à nouveau écartées et Paul entra.
« Le voilà, mère, il... »
Paul se tut brusquement.
« Restez où vous êtes, monseigneur, » dit Gurney.
« Qu'est-ce... » Paul se tut, secoua la tête. Jessica voulut parler, mais le bras resserra son étreinte.
« Vous ne parlerez que lorsque je vous y autoriserai, sorcière, » dit Gurney. Je veux seulement que votre fils entende une chose. Au moindre signe, je suis prêt à plonger ce couteau dans votre cœur par simple réflexe. Votre voix doit rester monotone. Vous ne devez pas bouger certains muscles, ni les tendre. Vous allez agir avec la plus extrême prudence afin de gagner ces quelques secondes supplémentaires de vie. Et je vous l'assure, c'est tout ce qui vous reste.
Paul fit un pas en avant.
Gurney, mon vieux, que...
Restez où vous êtes, lança Gurney. Un pas de plus et elle est morte.
La main de Paul se glissa vers son couteau. Sa voix, lorsqu'il parla, était pleine d'un calme mortel.
Tu ferais bien de t'expliquer, Gurney.
J'ai fait le serment de tuer la traîtresse, dit Gurney. Crois-tu que j'ai pu oublier l'homme qui m'a sauvé du puits d'esclaves Harkonnen, qui m'a donné la liberté? La vie et l'honneur, et aussi l'amitié, une chose qui passe avant toute autre. Et celle qui l'a trahi est maintenant sous mon couteau. Nul ne m'empêchera de...
Tu es dans l'erreur la plus complète, Gurney, dit Paul.
C'est donc cela, songea Jessica.
Quelle ironie.
Dans l'erreur, dit Gurney. Écoutons donc ce que cette femme elle-même a à nous dire. Et rappelez-vous que j'ai payé. Espionner et ruser pour étayer cette accusation. J'ai même offert de la semouta à un capitaine des gardes Harkonnen pour qu'il me rapporte une partie de l'histoire.
Jessica sentit que l'étreinte du bras sur sa gorge se relâchait très légèrement, mais avant qu'elle ait pu prononcer un mot, Paul dit « Le traître était Yue.
Je te le dis, Gurney. Les preuves sont complètes. C'était Yue.
Je ne veux pas savoir comment tu en es venu à concevoir un tel soupçon. Mais si jamais tu frappes ma mère, il brandit son kris, je répandrai ton sang. Yue était un docteur conditionné pour servir les maisons royales, dit Gurney. Il ne pouvait trahir.
Je connais un moyen d'annuler ce conditionnement, dit Paul.
Les preuves, dit Gurney.
Elles ne sont pas ici, mais aussi à Chitaber, loin dans le sud.
Mais c'est un piège, grommela Gurney.
Et son bras se resserra sur la gorge de Jessica.
Ce n'est pas un piège, Gurney, dit Paul. Et il y avait une si terrible tristesse dans sa voix que Jessica en eut le cœur broyé.
J'ai vu le message pris sur un agent des Harkonnen, dit Gurney. Il désignait nettement.
Moi aussi, je l'ai vu. Mon père me l'a montré le soir même. Il m'a expliqué que ce n'était là qu'un stratagème Harkonnen qui visait à rendre suspecte à ses yeux la femme qu'il aimait.
Oh yeah, s'exclama Gurney.
Tu n'as pas... Silence, dit Paul.
Et le ton dur de sa voix était plus impératif que tous les ordres que Jessica avait jamais entendus. Il a le grand contrôle, se dit-elle. Le bras de Gurney trembla sur son cou. La pointe du couteau se retira.
Ce que tu n'as pas entendu, reprit Paul, ce sont les sanglots de ma mère cette nuit-là, quand elle eut perdu son duc. Ce que tu n'as pas vu, ce sont ses yeux brûlants quand elle parle de tuer les Harkonnen.
Ainsi, pensa-t-elle, il a écouté. Les larmes lui brouillèrent la vue.
Ce que tu as oublié, poursuivit Paul, ce sont les leçons que tu avais apprises dans le puits d'esclaves Harkonnen. Tu parles avec fierté de l'amitié de mon père. Mais es-tu incapable de faire la différence entre les Harkonnen et les Atreides, au point de ne pas sentir un piège Harkonnen par la seule puanteur qu'il dégage? Ne sais-tu pas que la loyauté des Atreides s'achète avec l'amour, tandis que la monnaie d'échange des Harkonnen est la haine? Comment la véritable nature de cette trahison a-t-elle pu t'échapper?
Mais Yue, murmura Gurney.
La principale preuve que nous ayons est un message signé de sa main et où il reconnaît sa trahison, dit Paul. Je te le jure par l'amour que je garde encore pour toi. Un amour que je garderai même après que je t'aurai laissé en sang sur le sol de cette chambre.
En écoutant parler ainsi son fils, Jessica s'émerveilla de sa compréhension, de la pénétration de son intelligence.
Mon père avait un instinct pour ses amis, dit Paul. Il ne donnait que rarement son amour, mais ne se trompait jamais.
Sa faiblesse était de ne pas comprendre la haine. Il croyait que quiconque détestait les Harkonnen ne pouvait le trahir. Il regarda sa mère. Elle le savait. Je lui ai transmis le message de mon père, qui disait que jamais il ne douterait d'elle. Jessica sentit que son contrôle s'effritait. Elle se mordit la lèvre. Devant l'attitude pleine de raideur de son fils, elle comprenait ce que ses paroles lui coûtaient. Et elle aurait voulu courir à lui, presser sa tête contre ses seins, comme jamais encore elle ne l'avait fait. Mais le bras contre sa gorge ne tremblait plus. Et la pointe du couteau était de nouveau dans son dos, immobile, acérée.
L'un des moments les plus terribles de la vie d'un enfant, reprit Paul, c'est lorsqu'il découvre que son père et sa mère sont des êtres humains qui partagent un amour auquel il ne peut vraiment goûter. Il perd ainsi quelque chose, mais en même temps, s'éveille à l'idée que le monde est bien là et que nous y sommes seuls.
Ce moment porte avec lui sa vérité. On ne peut la fuir. J'ai entendu mon père parler de ma mère. Elle n'a pas trahi Gurney.
Jessica retrouva enfin sa voix et dit « Gurney, lâchez-moi. »
Elle avait parlé sur un ton normal, sans essayer de jouer sur les faiblesses de l'homme. Pourtant, la main de Gurney retomba. Elle s'avança vers Paul et s'arrêta tout près de lui, mais ne fit aucun geste pour le toucher.
« Paul, dit-elle, il y a d'autres moments d'éveil dans l'univers. Je comprends soudain à quel point je t'ai manipulé, transformé pour te faire suivre la voie que j'avais choisie, que je devais choisir, si cela peut être une excuse, par mon éducation. » Elle se tut une seconde, la gorge nouée, puis reprit en regardant son fils droit dans les yeux.
« Paul, je veux que tu fasses quelque chose pour moi. Choisis la voie du bonheur. Ta femme du désert, épouse-la si tel est ton désir. Pour cela, défie n'importe qui, n'importe quoi. Mais choisis ta propre voie. Je... »
Elle se tut en entendant la voix qui murmurait derrière elle. « Gurney. »
Elle suivit le regard de Paul, se retourna. Gurney n'avait pas bougé, mais il avait remis son couteau dans son étui
et ouvert sa robe pour révéler sa poitrine revêtue du disti gris des contrebandiers.
« Plongez votre couteau là dans ma poitrine, » dit-il. « Tuez-moi, je vous dis, et que tout soit terminé ainsi. J'ai trahi mon nom. J'ai trahi mon duc. Le meilleur, silence !» lança Paul.
Gurney se tut et le regarda.
« Ferme cette robe et cesse de te comporter comme un fou. C'est assez de folie pour aujourd'hui. Tuez-moi, vous dis-je. Tu ne me connais pas. Pour quel idiot me prends-tu? Faut-il donc qu'il en soit ainsi avec chacun des hommes dont j'ai besoin ?»
Gurney se tourna alors vers Jessica et sa voix prit un ton lointain, une note suppliante qui ne lui ressemblait guère.
« Alors vous, madame, tuez-moi, je vous en prie. »
Jessica alla jusqu'à lui, mit les mains sur ses épaules et dit
« Gurney, pourquoi voulez-vous que les Atréides tuent ceux qu'ils aiment ?»
Et lentement, elle referma la robe de Gurney.
« Mais je...
Vous pensiez agir pour Leto, dit-elle. Et pour ceci, je vous honore.
« Madame, dit Gurney. »
Et il baissa la tête et ferma les paupières pour retenir ses larmes.
« Considérons ceci comme un malentendu entre de vieux amis, » dit encore Jessica.
Et Paul perçut les notes apaisantes de sa voix.
« C'est fini, et nous pouvons nous réjouir de savoir que jamais plus nous ne connaîtrons un tel malentendu entre nous. »
Gurney ouvrit les yeux et la regarda.
« Le Gurney Alec que je connaissais était habile tant à la lame qu'à la balisette. C'est l'homme de la balisette que j'admirais le plus. Ce Gurney Alec-là se souvient-il combien j'aimais l'entendre quand il jouait pour moi? Avez-vous encore une balisette, Gurney?
J'en ai une nouvelle, dit Gurney. Elle vient de Chusuk. Elle joue comme une véritable Varota, bien qu'elle ne soit pas signée. Je pense qu'elle a été fabriquée par un élève de Varota qui...
Il s'interrompit.
Mais que puis-je vous dire, madame? Nous voilà en train de bavarder de...
Nous ne bavardons pas, Gurney, dit Paul. Il vint auprès de sa mère. Nous ne bavardons pas. Nous parlons d'une chose qui ramène la joie entre les amis. J'aimerais que tu joues pour elle maintenant. Les plans de bataille peuvent attendre un instant. De toute façon, nous n'irons pas au combat avant demain.
Je vais chercher ma balisette, dit Gurney. Elle est dans le couloir.
Il franchit les tentures. Paul posa une main sur le bras de sa mère et sentit qu'elle tremblait.
« C'est fini, mère, » dit-il.
Sans tourner la tête, elle lui jeta un regard oblique.
« Fini ?»«
Bien sûr. Gurney a... »«
Gurney ?»« Ah, oui. »
Elle baissa les yeux. Dans le bruissement des tentures, Gurney réapparut avec sa balisette. Il entreprit de l'accorder tout en évitant leurs regards. Les tapis, les draperies et les tentures absorbaient l'écho et la balisette dans cette chambre produisait des sons intimes. Paul conduisit sa mère jusqu'à un coussin. Il était soudain frappé par l'âge qu'il lisait sur son visage, où le désert avait laissé déjà ses premières rides, ses premières traces au coin des yeux emplis de bleu.
Elle est fatiguée, se dit-il.
Il faut que nous trouvions un moyen de supprimer une partie de ses charges. Gurney joua un accord. Paul le regarda et dit « Certaines choses requièrent mon attention. Attends-moi ici. » Gurney acquiesça. Son esprit était lointain, peut-être sur Caladan, sous les cieux ouverts où roulaient des nuages annonciateurs de pluie. Paul s'éloigna à regret. Tandis qu'il avançait dans le couloir, il entendit un nouvel accord de balisette et s'arrêta une seconde pour prêter l'oreille à la musique étouffée. Des vignes et des vergers, des filles rondes et jolies, et un verre plein dans ma main. Pourquoi songer aux batailles, au tonnerre sur les montagnes? Pourquoi ces larmes dans mes yeux? Les cieux grands ouverts m'offrent tout leur trésor, tout près de ma main tendue. Pourquoi redouter l'embuscade? Et le poison caché, pourquoi me pèsent les années?
Des bras amoureux m'appellent, nus vers leurs caprices, et l'Éden me promet ses délices. Pourquoi me rappeler les blessures et les fautes anciennes? Pourquoi cette peur dans mon sommeil?
Devant Paul, à l'angle du couloir, un messager Fedaïkine apparut. L'homme avait rejeté son capuchon en arrière et les attaches de son distille pendaient autour de son cou, révélant qu'il arrivait du désert. Paul lui fit signe de s'arrêter et s'avança vers lui. L'homme s'inclina, les mains jointes, ainsi qu'il devait saluer la révérende mère ou la Sayadina lors des rites. « Mouaddib, dit-il, les chefs commencent à arriver pour le conseil. Déjà ? Ce sont ceux que Stilgar a convoqués en premier lorsque l'on croyait que... » Il s'interrompit, haussa les épaules. « Je vois, dit Paul. » Il se retourna vers la chambre d'où filtraient les accords de balisette de cet air ancien que sa mère aimait entre tous, avec son mélange de paroles joyeuses et tristes. « Stilgar arrivera bientôt avec les autres, dit-il. Tu les guideras jusqu'à ma mère. J'attendrai ici, Mouaddib, dit le messager. Oui. Oui, c'est cela. » Et Paul se mit en marche vers les profondeurs de la grotte, vers ce lieu qui se trouvait dans toutes les grottes, ce lieu proche du bassin d'eau où il y aurait un petit Shai-Hulud. La créature, qui ne mesurait pas plus de 9 mètres de long, était prise au piège des conduits d'eau qui l'entouraient de toutes parts. Le faiseur, après avoir émergé du vecteur du petit faiseur, évitait l'eau comme un poison. Le faiseur noyé constituait le plus grand des secrets Fremen, car l'union de l'eau et du faiseur produisait l'eau de vie, ce poison que seule une révérende mère pouvait transformer. Paul avait pris sa décision dans l'instant où sa mère affrontait le danger. Aucune des lignes d'avenir qu'il avait entrevues ne comportait ce moment de péril associé avec Gurney Halleck. L'avenir, cet avenir lourd de nuages, où l'univers se précipitait vers le nexus bouillonnant, était comme un monde fantomatique, tout autour de lui. « Je dois le voir », se dit-il. Lentement, son organisme avait acquis une tolérance à l'épice qui avait eu pour effet de rendre ses visions prescientes de plus en plus rares, de plus en plus floues. Et une solution évidente s'imposait. Je vais noyer le faiseur. Ainsi, nous verrons bien si je suis le Kwisatz Haderach qui peut survivre à l'épreuve des révérendes mères.